morning edition from NPR News.
Wenn Sie dies an Wiener Haus sind.
France Inter, le 18/20.
Ce soir, Marioupol qui est tombé, disent les Russes. Les Américains sont plus sceptiques. Mais qu'est-ce que ça change dans les objectifs russes, dans le Donbass, dans le tournant de la guerre aussi? On voit ça avec notre invité ce soir. Le bruit du monde est au Texas qui, une fois de plus, secoue les États-Unis avec une exécution contestée, celle de Melissa Lucio, une femme accusée de la mort de son enfant, défendue notamment par 5 des jurés qui l'ont condamnée. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Eugénie a trouvé un paquet de chips et un enfant aux États-Unis. La Norvège qui s'excuse de son homophobie passée et la Suède qui construit des gratte-ciels en bois. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et Angélique Bouin avec un nouveau règlement majeur en Europe pour la sécurité Internet. Et puis 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four et le sort de l'Europe qui va se jouer dimanche dans les urnes aussi en Slovénie. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Jean-Paul Paloméros.
Bonsoir.
Vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême pour la transformation de l'OTAN. On rejoindra Loïc Loury qui est à Washington dans un petit instant. S'il s'avère, monsieur Paloméros, que Marioupol est tombé, même si un doute persiste, il faut le dire ce soir encore, il semble que cette chute reste inéluctable. S'il s'avère que Marioupol est tombé, l'enjeu pour Moscou, bien sûr, il est militaire, il est stratégique. Est-ce qu'il est aussi terriblement symbolique? Diriez-vous que ça se joue là-dessus à 50-50?
Oui, alors, pour moi, vu une place, Marioupol, pour Vladimir Poutine, ce n'est plus un problème depuis hier, il l'a dit. Il a décidé de ne pas attaquer les assiégés dans cette fameuse usine Azovstal, et il va les laisser, malheureusement, mourir ou se rendre. Ça sera l'alternative qu'ils ont. Ils prévoient déjà de défiler à Marioupol qu'il y ait un défilé à Marioupol le 9 mai pour célébrer à la fois commémorer la victoire de 45 et célébrer cette victoire. Donc pour les Russes, Marioupol, c'est pas de l'histoire ancienne bien sûr, et c'est important. Mais c'est déjà, ce qui veut dire aussi qu'ils vont pouvoir rebasculer des forces ailleurs.
Mais ça veut dire effectivement que c'est la première grande ville de cette importance, c'est surtout la première victoire à afficher au fond pour les Russes aujourd'hui. Et on imagine, Jean-Paul Paloméros, que ça compte dans le déroulement de la guerre qui s'est fait pas du tout comme les Russes l'auraient imaginé.
Oui, enfin c'est une victoire quand même à la Pyrrhus, comme on dit. Il a fallu qu'ils payent le prix. En 2014, ils pensaient pouvoir saisir Marioupol. Bon, ben, à force de bombardements, enfin, c'est une ville aussi qui est écrasée, donc à reconstruire. C'est une victoire, c'est une victoire, mais le prix à payer a été horriblement cher pour tout le monde.
Et vous le dites, effectivement, victoire à la Pyrrhus pour la Russie, parce que ça a coûté énormément en hommes, ça a coûté probablement aussi d'ailleurs pour ce qui est du moral des soldats russes, ça a coûté, alors pour les Ukrainiens évidemment, on le dit terriblement, ça coûte aussi parce que ça a re-rassemblé à nouveau les Occidentaux, c'est même l'une des raisons qui pousse les Américains aujourd'hui à armer encore plus les Ukrainiens. Au fond, on se dit qu'il aura coûté extrêmement cher ce verrou qui vient d'exploser pour les Russes.
Oui, je suis tout à fait d'accord. D'abord, ça va rester dans l'histoire. C'est Marioupol, maintenant, c'est une ville que tout le monde connaît, qui va rester comme un des grands noms, une ville martyre, une ville saccagée, une ville soumise à la violence aveugle d'une grande puissance mondiale. C'est quand même... Ça va marquer le 21e siècle, incontestablement. Maintenant, oui, c'est vrai, ça a réveillé les consciences en Occident, et en particulier, aux États-Unis.
Et on verra aussi ce que ça dit des horreurs qui s'y sont produites, de ce qui s'est passé derrière, de ce qu'on y découvrira, parce qu'on sait déjà effectivement, c'est ce que disait le maire de Marioupol à l'instant dans le journal de 18h, on sait déjà qu'il y a au moins 20 000 personnes qui sont mortes et on n'imagine pas pour l'instant dans quelles conditions.
Il faudra pouvoir y accéder quand même.
Exactement. On le saura sûrement plus tard. Il faudra pouvoir y accéder. Il y a quand même autre chose. Comment ils le gardent, Marioupol? Parce que effectivement, ça a été coûteux pour eux en hommes. Comment ils le gardent? Peuvent-ils le garder, d'ailleurs?
On pense quand même qu'ils vont faire un effort particulier, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, non pas de lâcher, mais qu'il y ait des incidents dans cette ville si symbolique, mais il y a quand même la plus grande partie de la population est partie, et l'autre partie, la petite partie qu'il reste, enfin, c'est pas si faible que ça, est apeuré, est soumis à la violence, donc je pense pas qu'il y aura une grosse résistance.
Jusqu'à quel point diriez-vous que ça simplifie réellement, là, au moment où on se parle, le dessin des Russes dans le Donbass, encore une fois, quand ce verrou saute ?
Non, ça le simplifie, enfin, ça va permettre une bascule des forces, mais jusqu'au point qu'il faut quand même, comme vous le disiez à l'instant, garder Mariupol. Disons que, oui, ça libère un peu de force pour remonter vers le nord-est du Donbass. Oui.
Vous disiez tout à l'heure, Monsieur Palomero, jusqu'à quel point effectivement ça avait réveillé les consciences et poussé peut-être certains, et notamment les Américains, à armer encore plus les Ukrainiens. Je voudrais qu'on fasse un léger détour par Washington et saluer Loïc Lory. Bonsoir Loïc.
Et bonsoir Fabien.
Depuis New York avec nous, où Joe Biden a repris la parole il y a quelques minutes, confirmé ou réaffirmé les 800 millions de dollars supplémentaires et aussi les armes lourdes. J'aimerais que vous nous disiez, que vous nous fassiez une sorte d'inventaire, ce que ça veut dire désormais que ces armes que les États-Unis donnent à l'Ukraine.
Eh bien, 800 millions de dollars, effectivement, et en l'occurrence des dizaines d'obusiers Howitzers, pour lesquels des soldats ukrainiens sont d'ailleurs en train d'être formés. Il y a près de 150 000 munitions pour aller avec. Il faut savoir que la semaine dernière, une enveloppe de même valeur avait été annoncée déjà par le président américain. Là encore, des obusiers, des transports blindés, des hélicoptères, des drones, on n'est plus du tout dans la retenue finalement du début de la guerre lorsque les livraisons étaient limitées à du portatif et à du léger. On parle d'un armement destiné à une guerre qui est plus conventionnelle. On peut aussi rappeler que les États-Unis très récemment ont confirmé avoir coordonné l'envoi à Kiev de pièces détachées visant à remettre sur pied la flotte d'avions de chasse de l'Ukraine. Washington, Fabienne, c'est incontestable, ici s'engage de plus en plus dans ce conflit.
Et est-ce qu'on peut réexpliquer rapidement, Loïc, les raisons du changement de pied?
Eh bien, pour plusieurs raisons, dont certaines ne sont pas propres aux États-Unis. La guerre d'abord se déplace à l'Est, vous en parlez, où la géographie est différente, où l'armement doit s'adapter. Les chancelleries, vous l'évoquiez aussi, ont été ragaillardies sans doute par la résistance dans la durée de l'armée ukrainienne, sans compter les exactions documentées à Boutcha, à Mariupol, ailleurs, qui font office d'électrochoc. Et puis, il y a d'autres facteurs ici aux États-Unis qui expliquent ce revirement, la pression assez forte peut-être du Congrès face à un Joe Biden qui avait d'abord été assez frileux. Et enfin, c'est important, le Pentagone, la Maison-Blanche, visiblement, ont surmonté leur prudence initiale et redoutent un peu moins qu'avant de voir le conflit s'élargir. Washington, vous savez, avait tout fait dans un premier temps pour ne pas être considéré comme co-belligérant dans cette guerre. Mais la Russie, en face, finalement, a assez peu de leviers pour réagir. Moscou, d'ailleurs, il y a quelques minutes, a interdit l'entrée sur son sol de la vice-présidente Kamala Harris ou du dirigeant de Facebook, Mark Zuckerberg. On voit mal, Fabienne, les Américains stopper leur livraison d'armes pour si peu.
Général Palomeros, il y a cette montée en puissance effectivement venant des Américains, il y a la Norvège qui a été citée très récemment, sans compter les armes lourdes, les chars de combat, etc., véhicules blindés qui ont été annoncés par l'Allemagne et qui viennent notamment d'Europe de l'Est. Est-ce que ce matériel, diriez-vous qu'il peut permettre aux Ukrainiens de remporter cette bataille du Donbass, même si Mariupol est tombée et comme on le disait, ça facilite un certain nombre de choses pour les Russes?
Bah, ce matériel, en fait, il va leur permettre, et en souhaitant, en espérant vivement qu'il leur arrive tout ce matériel, hein, c'est ça l'enjeu, hein. Parce que c'est pas si simple que ça quand même. Il y a quelques milliers de kilomètres à franchir, et les Russes ne sont pas complètement aveugles à tout ce qui va se passer. Non, mais ce matériel, non seulement, oui, il est indispensable, mais pour qu'ils puissent la mener cette guerre avant de la gagner. C'est ça, là, et c'est pour ça que les Américains veulent aller aussi vite et qu'ils ont décidé successivement de l'envoi de ces armes. Il y a plusieurs annonces qui se sont succédées. D'ailleurs, le président Biden a dit qu'il allait envoyer ça dans les premières lignes de défense de la démocratie. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Est-ce que c'est au cœur vers le Donbass ou bien à la frontière ukrainienne? Ça serait intéressant de lui demander. Mais en tout cas, il est bien conscient et les dirigeants occidentaux sont bien conscients que c'est maintenant ou jamais.
Est-ce que vous diriez que les Ukrainiens, parce qu'il faut rappeler, on a peut-être un peu trop tendance à l'oublier, que dans le Donbass, la guerre a commencé en 2014. Diriez-vous que les Ukrainiens sont préparés, et mieux préparés, mieux encore qu'ils l'étaient dans d'autres zones, à cette bataille qui va se livrer maintenant?
Alors, ils sont mieux préparés, mais Ils ont en face d'eux quand même une armée russe qui est concentrée, si vous voulez. Il y a eu ce changement de stratégie qui a permis, sous la coupe d'un seul commandeur, de pouvoir coordonner les efforts. On voit, on est dans une stratégie beaucoup plus logique, avec des attaques dans la profondeur pour amenuiser la résistance dans un premier temps des Ukrainiens, l'artillerie, l'aviation. Donc ça, c'est très classique. Et puis après, il va y avoir cette attaque frontale auquel les Ukrainiens sont effectivement préparés. Quel est l'état de leur armée aux Ukrainiens? Ça, c'est une question. Et combien de forces le président Zelensky veut-il mettre dans la bataille pour cette bataille du Donbass, sachant qu'il a aussi le reste de l'Ukraine à protéger?
Avec des Russes qui, vous le disiez effectivement, sont peut-être mieux au fait de la résistance ukrainienne désormais, et puis qui surtout sont beaucoup plus proches de leur base. Donc ça veut dire qu'en termes de logistique, par exemple, les problèmes que l'armée russe a rencontrés jusque-là, cette fois-ci, ils vont pouvoir y échapper, on imagine?
Ou y échapper en partie, parce que du côté russe, la question est de savoir si vraiment leur armée s'est reconstituée. Ça, ça c'est une question, et on ne pourra en avoir le résultat de tout ça, d'abord que par la date de lancement de l'opération, parce que...
On vous entend loin, la ligne a sauté, j'espère qu'il nous entend, Monsieur Palomeros. Il est en train de nous parler, pauvrette. Il est en train... Ah voilà, ça y est. Pardon, Monsieur Palomeros, on vous a perdu un tout petit instant, mais je sais que vous êtes revenu.
Ah, je...
Pardon. La question, c'était que vous parliez d'une armée russe qui doit aussi se refaire, mais qui a une proximité avec la frontière russe qui peut-être peut l'aider, et notamment en termes de logistique.
Ah ben bien sûr, là, maintenant il y a une continuité territoriale, il y a une continuité qui permet effectivement d'alimenter beaucoup plus facilement que c'était le cas par exemple à Kiev. Et puis, mais il y a quand même la question de savoir, l'armée russe avait quand même été très touchée par cette première défaite. Et donc, est-ce qu'elle s'est vraiment reconstituée, tant au plan des équipements et surtout du moral et de la volonté de ses troupes de combattre? Ça, on va le savoir assez rapidement.
On cite souvent, depuis le début de cette guerre, cette fameuse phrase de Napoléon disant que la guerre, c'est le trois quarts au moral et le reste seulement, ce sont les armes. Et on dit, mais est-ce qu'on se fait aussi des illusions que le moral des troupes russes est au plus bas, en tout cas beaucoup plus bas que celui des Ukrainiens?
Oui, mais enfin bon, on peut pas jouer là-dessus, si vous voulez. Évidemment, Poutine va jouer sur l'effet Mariupol, on en parlait tout à l'heure. Il va galvaniser ses troupes, et puis il a aussi ses mercenaires qui sont là. Ils sont nombreux, et eux ne se posent pas trop de questions. Ils sont pas dans leur pays, ils sont là parce que ce sont des mercenaires, et puis ils font le travail, quoi.
En l'état des forces, général Palomeros, et vous avez nous avez bien expliqué combien on ne sait pas très bien dans quel état est l'armée ukrainienne aujourd'hui et l'armée russe aussi. En l'état, est-ce qu'on se dit que c'est un affrontement qui peut durer extrêmement longtemps, qui peut être une très longue bataille que celle du Donbass?
Alors c'est pas mon sentiment, mais ça peut se passer en plusieurs phases. Tout dépendra ensuite de ce que Poutine veut et peut stabiliser. Le Donbass au sens le plus large du terme, une grosse partie du Donbass, quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, ça c'est la question. Et où va aller son appétit ensuite? Est-ce qu'il va vouloir continuer, tout en sachant que plus il en prendra et plus ça sera difficile de tenir le terrain quand même. Et ça, je pense qu'il en est conscient.
Est-ce que vous diriez que, au vu de ce qu'il nous dit récemment, on a parlé de son changement de stratégie, effectivement, on est dans l'ultime bataille et qu'il a renoncé, de fait, au moment où on se parle en tout cas, au reste de l'Ukraine, ou, selon vous, et de ce que vous en percevez, ce n'est qu'une interruption, j'allais dire, pour le reste de l'Ukraine? On se concentre d'abord sur le Donbass, on verra ce qui se passe après.
Là, ma conviction très profonde, c'est que les objectifs de Poutine n'ont pas changé. La neutralisation, pas la neutralité, la neutralisation de l'Ukraine, la démilitarisation et quelque part l'asservissement de l'Ukraine. Est-ce qu'il y arrivera? On verra. Peut-être qu'il sera obligé de s'arrêter en cours de route, et on peut le souhaiter, qu'il reste une Ukraine indépendante, libre, qui puisse continuer à vivre sa vie. Maintenant, si par malheur il y avait un écroulement, ce qu'on ne souhaite pas, bien entendu, des forces ukrainiennes, là, ça aiguiserait son appétit. Et ça le pousserait peut-être à aller plus loin. Mais l'enjeu de cette bataille était évidemment crucial.
L'enjeu est crucial, et vous le disiez, il y a toutes les chances pour qu'il utilise même le 9 mai à Mariupol pour acter cette victoire-là. Diriez-vous que encore une fois, pour sa population et pour cette fameuse date, il va frapper un grand coup maintenant et rapidement d'ici au 9 mai pour pouvoir arriver avec, si j'ose dire, d'autres munitions devant sa population au moment du 9 mai. Est-ce que c'est à craindre ?
Si on se met un peu à sa place, c'est pas facile. Hein.
Ouais.
Il prendrait quand même un peu de risque, parce que 9 mai, c'est proche. Donc, la victoire, entre guillemets, de Mariupol, et puis il peut afficher quand même des victoires. De toute façon, comme c'est le maître de la désinformation et que sa désinformation fonctionne très bien à domicile, ça va être assez simple pour lui pour transformer, quelle que soit d'ailleurs l'issue des combats à court terme, pour transformer tout ça dans le bon sens du terme pour les Russes. À l'extérieur, c'est un autre sujet.
Et on verra donc comment les choses évoluent, le temps effectivement que tout cela prendra. En tout cas, on le suit de très près, comme on le fait depuis presque 2 mois aujourd'hui que dure cette guerre. Merci beaucoup, Général Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême pour la transformation de l'OTAN. Merci de votre passage chez nous.
Le 18-20, Fabienne Saint-Hès, sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde et c'est un grondement qui vient du Texas au sujet de l'exécution prévue mercredi d'une femme, elle s'appelle Melissa Lucio. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logeni.
On ira en Suède et au Japon qui se sont lancés dans les gratte-ciel en bois, solide comme du béton.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, Angélique Boin, bonsoir à vous.
Bonsoir, l'Europe va-t-elle se doter d'une législation puissante pour lutter contre les contenus haineux en ligne, la désinformation ou encore la contrefaçon ? C'est l'enjeu d'une négociation qui pourrait aboutir demain, Fabienne.
Le monde d'après, c'est vous Jean-Marc Faure. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous. Figurez-vous que la France n'est pas le seul pays européen à voter dimanche. Mais oui, la petite Slovénie fait la même chose avec un match qui rappelle le duel Macron-Le Pen, mais à l'envers, vous comprendrez.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par la Tanzanie avec Tix Daotor. Il est né en Tanzanie, il vit à Londres et la chanson s'appelle Georgia sur France Inter.
Got me singing Georgia, I'd do anything for ya.
It's sweet and strong, my confidence goes when you come. I wish I could know how you melt in my snow, make my heart do wrong. I don't need your love, but the one cut the sunshine on the winter. When I wake up in the morning, then the light from the curtain hurts my eyes when I hide and see your face.
One, two, three, oh!
You got me singing Georgia.
I know I'm falling.
I say you got me singing.
thing is that I got a mom.
Le bruit du monde, ce soir est aux États-Unis, au Texas, où l'on attend pour le 27 avril, c'est mercredi, l'exécution de Melissa Lucio. Et à nouveau, autour de la peine de mort, l'Amérique est secouée, et nous avec. Melissa Lucio, c'est la première femme d'origine hispanique dans le couloir de la mort au Texas. Elle a été reconnue coupable d'avoir tué sa fille de 2 ans, mais le doute est là. Un documentaire, L'État du Texas contre Melissa, diffusé sur la plateforme Hulu, récemment vu aussi sur Canal+, a mis en lumière cette affaire et suscité une vaste mobilisation des activistes anti-peine de mort, bien sûr, des militants anti-IVG aussi, et oui, anti-avortement, car pro-vie. 5 des anciens jurés de son procès sont aussi en plein doute et Kim Kardashian a donné de sa notoriété. Le reste, c'est Thomas Arms qui raconte.
Depuis 15 ans, Melissa Lucio attend en prison son exécution. En 1997, sa fille de 2 ans, Maria, est retrouvée inconsciente chez elle et ne peut être réanimée. Les marques sur son corps conduisent la police à penser à un homicide. La médecine légale précisera que le décès est dû à un choc violent sur la tête du bébé. Maria était tombée d'un escalier quelques jours avant son décès. Sa mère, Melissa Lucio, est arrêtée. Son interrogatoire dure plus de 5 heures.
En fait, ils ont essayé de me faire admettre que j'étais responsable de sa chute. Je n'ai pas cessé de leur dire que je n'avais pas fait de mal à ma fille. Ils étaient grossiers, brutaux. Ils n'arrêtaient pas de me montrer du doigt et de me menacer pour que j'avoue quelque chose que j'aurais été incapable de faire à mon enfant.
Ce témoignage issu du documentaire L'État du Texas contre Melissa est suivi par les vidéos de son interrogatoire.
C'est votre chance d'établir la vérité, car pour l'instant ça ressemble à un meurtre qualifié et vous êtes une meurtrière. Êtes-vous une tueuse de sang-froid ?
Non, je ne le suis pas.
Ah, vous êtes juste une mère exaspérée qui s'en est prise à elle.
Vous savez que quelque chose sonne faux.
Non, je ne sais pas, monsieur.
Et si je vous montre toutes ces photos, si je vous frappe à mort comme cet enfant l'a été, je pense que vous seriez morte aussi.
Je jure que je n'ai pas battu ma fille, monsieur. Je ne suis pas aussi cruelle avec mes enfants.
Alors d'où viennent ces ecchymoses sur ce pauvre enfant ?
Une technique d'interrogatoire qualifiée depuis de brutale. Sandra Babcock est professeure de droit à l'université Cornell et avocate de Melissa Lucio.
Elle a répété son innocence au moins 100 fois, mais la police n'a pas accepté cette version et a continué de réclamer ses aveux de culpabilité jusqu'à ce qu'elle craque et admette être responsable de certaines blessures constatées sur sa fille. Mais c'était une confession obtenue sous la contrainte. Et dans le documentaire, vous pouvez voir à quel point les policiers sont agressifs. Ils la dominent de toute leur taille. L'un d'entre eux lui parle à 2 cm de son visage. Ils portent des armes, la majorité sont des hommes. Et pour une femme qui a subi la violence des hommes toute sa vie, c'était une situation terrifiante. La seule chose qu'elle a pu faire pour que ça cesse fut de leur dire ce qu'ils voulaient entendre.
Melissa avoue finalement avoir fessé et mordu sa fille. Le procureur considère ses aveux comme une confession de meurtre et réclame la peine de mort. Le jury va suivre le procureur sans avoir entendu aucun des 13 autres enfants de Melissa Lucio, ni aucun expert médical. Dans le même temps, le père de l'enfant, signalé auprès des services de police pour violence domestique, n'est lui condamné qu'à 4 années de prison. Autre rebondissement, peu après le procès, en 2014, le procureur dans cette affaire est condamné pour corruption à 13 années de prison. Il réclamait de l'argent pour influencer son jugement. Alors le doute entourant ce procès et la date fatidique approchant ont conduit à une mobilisation rare. Plus de la moitié du Parlement texan, 106 démocrates et républicains, demandent de suspendre cette exécution, y compris des partisans de la peine de mort, comme l'élu républicain de Plano, Jeff Leach.
En tant que républicain conservateur, j'ai toujours été en faveur de la peine capitale pour les crimes les plus horribles. Mais je n'ai jamais vu un cas aussi troublant que celui de Melissa Lucio. Je pense que si l'on fait tout ce que l'on peut pour s'assurer qu'un Texan innocent ou potentiellement innocent ne soit pas mis à mort par l'État, on rend notre système de justice plus fort et on rend justice à Maria et à la famille Lucio.
Il est très rare que la commission des libérations conditionnelles du Texas revienne sur une condamnation à mort, mais John Lucio espère, l'aîné des enfants, rend visite à sa mère 1 à 2 fois par semaine.
Ma mère n'envisage aucune date d'exécution, elle est confiante. Ma mère se sent vraiment bien, on est allé la voir avec cette super nouvelle, que Kim Kardashian la soutient. On ne sait qu'une chose, quand elle va rentrer, elle va devoir nous cuisiner beaucoup de repas.
Le gouverneur du Texas aura le dernier mot après l'avis de la commission de libération conditionnelle. Mais la dernière fois qu'il a commué une exécution en peine de prison, c'était parce que les membres de la famille de la victime lui avaient demandé de le faire. Et aujourd'hui, tous les enfants de Mélissa Lucio le supplient de gracier leur mère.
Un reportage signé Thomas Arms. Merci beaucoup. Une affaire que l'on suit, bien sûr. Le bruit du monde, la suite, c'est Sous les radars et Sébastien Logeni. Et on reste aux États-Unis, Sébastien, avec cette affaire qui, dans un tout autre genre, parle aussi de justice. Nous sommes à Syracuse. Syracuse, où un enfant de 8 ans a été arrêté pour un vol de paquets de chips.
Oui, c'est une vidéo qui est devenue virale aux États-Unis. Plus de 5 millions de vues depuis le début de la semaine. Nous sommes dans l'état de New York, pas loin de Détroit et de Cleveland, à Syracuse, considérée comme la ville la plus pauvre des États-Unis pour les enfants. 50% des moins de 18 ans et vivent sous le seuil de pauvreté. Eh bien, le week-end dernier, trois policiers blancs arrêtent en pleine rue un enfant noir de 8 ans, en effet. L'un d'eux le tient par les bras et le fait monter fermement à l'arrière de leur voiture, en pleure. Un passant proteste et sort son portable. Qu'est-ce que vous faites ? demande celui qui filme. Devinez, répond l'un des policiers. Il est en train de voler, lance un autre. Il vole un paquet de chips et vous le traitez comme un putain de criminel. S'il a volé, je vous rembourse, lance encore le témoin de l'arrestation. Voilà, la scène dure 3 minutes. Les policiers finissent par partir en voiture avec le jeune garçon, toujours en larmes. La police de Syracuse précisera plus tard qu'il n'a pas été menotté, qu'il a été ramené à sa mère, qu'aucune charge n'a été retenue contre lui et que l'incident est en cours d'examen. Insuffisant toutefois pour enrayer la polémique, les réseaux sociaux se sont enflammés, ravivant le débat sur les accusations de racisme au sein de la police américaine. Condamnation de la gouverneure démocrate de l'État de New York, une vidéo pas très surprenante, dit-elle, pour les Afro-Américains habitués, selon elle, à recevoir un traitement différent de la part de la police tout au long de leur vie.
La Norvège présente ses excuses officielles, Sébastien, à la communauté homosexuelle.
Le gouvernement tient à demander pardon, car les personnes homosexuelles, pendant de longues décennies en Norvège, ont été traitées par le pays comme des criminels. Jusqu'au 21 avril 1972, il y a pile 50 ans aujourd'hui, la Norvège condamnait en effet à de la prison ferme les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. 119 homosexuels sont ainsi passés derrière les barreaux entre 1902 et 1950, et c'est seulement il y a 50 ans donc que ces articles du code pénal ont été supprimés. Un demi-siècle après cette dépénalisation, le gouvernement a donc présenté des excuses officielles pour avoir, dit-il, exposé les homosexuels à de multiples condamnations, discriminations, calomnies et chantage. Le gouvernement norvégien, qui n'est pas le seul à célébrer ce cinquantenaire. Comme on peut l'entendre dans cette vidéo, la poste norvégienne aussi tient à marquer le coup. Une vidéo où l'on voit le Père Noël et un père de famille s'embrasser à pleine bouche pour célébrer leur amour. En 2022, dit la pub, la Norvège marque donc les 50 ans de la possibilité d'aimer qui on veut. Une grande satisfaction pour les associations LGBT qui se félicitent de ces excuses, mais qui pointent aussi des domaines encore à améliorer, comme l'interdiction des thérapies de conversion ou l'introduction d'un troisième sexe juridique. L'homosexualité, qu'il faut le rappeler, est encore interdite dans 69 pays dans le monde, y compris 11 dans lesquels elle est passible de la peine de mort.
Et on reste en Scandinavie avec l'apparition en Suède d'un gratte-ciel en bois.
Oui, c'est un immeuble d'habitation de 80 mètres de haut de 20 étages, inauguré il y a quelques mois, construit au nord de la Suède à Skellefteå. Ce n'est pas encore l'Empire State Building, mais c'est déjà une prouesse, une tour entièrement conçue à base de bois compressé, appelé aussi le CLT, le bois lamellé croisé pour les spécialistes, aussi solide que du béton, mais avec un avantage certain, une empreinte écologique bien plus faible, composée de bois issus de forêts renouvelables. Bref, des habitations écologiques exemplaires, presque neutres en carbone. Les Suédois, comme on peut l'entendre, ne sont pas les seuls à miser sur ces gratte-ciels en bois. Les Japonais, comme le raconte ce reportage, vont bientôt construire l'immeuble en bois le plus haut du monde, 350 mètres. De haut. Le projet pourrait voir le jour à Tokyo dans les prochaines années. Reste à s'assurer quand même que les constructions en question résistent bien aux tremblements de terre et aux incendies. Des études très poussées sont en cours et c'est tant mieux.
Eh ben, tenez-moi au courant, rapport à mon appartement. Merci beaucoup, Sébastien Logeni. Vous partez, j'allais dire, avec une liste de courses. Tiens, voici Cy Barnett, Write a List of Things You Look Forward To. C'est sur France Inter et dans Un Jour dans le Monde. Courtney, oula, ça s'arrête d'un coup, ça. Courtney Barnett, write a list of things to look forward to sur France Inter. Écrivez donc une liste de choses que vous attendez avec impatience. Eh bien, nous, c'est Angélique Bouin qu'on attend avec impatience à Bruxelles.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, Angélique, à Bruxelles, la fumée blanche est imminente sur un nouveau règlement majeur pour sécuriser Internet.
Oui, comme le résume souvent le commissaire français Thierry Breton, ce qui est interdit dans la vie de tous les jours doit aussi l'être sur Internet. Ce nouveau règlement sur les services numériques, baptisé DSA pour Digital Services Act, a pour objectif de pousser les géants du web à faire le ménage beaucoup plus sérieusement chez eux, à lutter contre les contenus illicites comme la haine en ligne, à faire la chasse aux campagnes de désinformation, à limiter certaines pratiques publicitaires trop ciblées, mais aussi à lutter contre la contrefaçon et à mieux gérer enfin la question des droits d'auteur. Alors c'est un peu fourre-tout comme loi, mais ça a l'avantage, Fabienne, de remettre à jour certains textes européens devenus totalement obsolètes, comme la directive e-commerce qui a déjà 20 ans, une époque où les Facebook, Twitter, Amazon étaient embryonnaires, l'assassinat de Samuel Paty en France, l'assaut sur le Capitole aux États-Unis en partie, on le rappelle, planifié sur les réseaux sociaux, et puis les campagnes de désinformation sur le Brexit ont convaincu les 27 de remettre de l'ordre dans ce Far West qu'est devenu Internet.
Donc, plusieurs volets, dont un renforcement de la lutte contre les contenus illicites, Angélique.
Oui, d'abord. Donc, les géants du numérique devront être plus réactifs pour retirer ce qui est interdit. Apologie des crimes, incitation à la haine raciale ou antisémite, atteinte à la dignité humaine. Le revenge porn, cette pratique qui consiste à publier des images dénudées d'une personne sans son consentement, devrait être intégrée à cette liste. Les sites seront également invités à suspendre les utilisateurs qui publient fréquemment ces contenus interdits. Ils devront enfin, et c'est un point absolument majeur du texte, être plus transparents sur leurs pratiques de filtrage, leur délai de réaction après une notification d'un internaute, leur nombre de modérateurs et les langues qu'ils pratiquent. On ne va pas jusqu'à les rendre responsables, Fabienne, de ces contenus illégaux. Ça aurait été en quelque sorte l'arme atomique, souligne un expert, mais on va les obliger à ouvrir le capot de leur voiture avec, à la clé, si l'on arrivait par exemple à prouver qu'ils ont favorisé une campagne de désinformation, des amendes et non des moindres, jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires annuel. Les plus grosses plateformes devront rendre annuellement des comptes à la Commission. On pourra les surveiller et les sanctionner, de la même façon que l'on contrôle les pratiques anticoncurrentielles dans le monde. C'est ça qui est très nouveau et très puissant, explique une source à la Commission. Mais attention, cela risque de ne pas aller assez loin, tempère Geoffroy Didier. C'est l'un des eurodéputés rapporteurs du texte. Il redoute que ces contrôles ne se limitent qu'aux grosses plateformes américaines, comme Twitter et Facebook. On verra demain aussi si les moteurs de recherche comme Google sont concernés. C'est l'un des enjeux du sprint final de la négociation en cours.
Et alors, on va aussi réglementer la publicité en ligne.
Oui, avec ce texte, les Européens veulent limiter, par exemple, le ciblage. Vous avez Netflix, Fabienne, j'imagine. Eh bien, vous en avez marre, peut-être, que la plateforme vous suggère en permanence des films qui reflètent ce que vous regardiez le mois dernier. Eh bien, ces recommandations ne vous seront plus imposées. L'utilisation des données personnelles des mineurs devrait aussi être limitée. Le DSA s'attaque enfin à la contrefaçon qui a prospéré sur Internet ces 20 dernières années. Auparavant, rappelez-vous, on ramenait de voyage une montre contrefaite. Aujourd'hui, elle pullule
parlez pour
sur
vous.
La toile. Tout comme les jouets dangereux, aujourd'hui, on en trouve partout. Les places de marché comme Amazon, Alibaba devront faire du ménage, mais pas toutes les plateformes, là encore, ce qui risque de décevoir les grandes marques de luxe. On ne sait pas non plus si ces sites de vente en ligne auront ou non l'obligation de procéder à des contrôles aléatoires sur les produits qu'ils vendent. La négociation sur ce sujet est là encore en cours, car comme vous le disiez, on attend la fumée blanche. Une très longue journée de négociation est prévue demain entre les représentants du Parlement, du Conseil, qui représente les États et de la Commission. Dans ce trilogue, il reste une vingtaine de points à trancher. Ce ne sera pas du griffonnage de virgule, me disait tout à l'heure un proche des négociations. La taille des entreprises concernées, le contour de leurs futures obligations est en jeu. Le texte était très ambitieux au départ. L'heure n'est pas aux demi-mesures, indique ce soir dans un communiqué le Bureau européen des consommateurs, qui exhorte les négociateurs à faire preuve d'audace et à ne pas édulcorer la proposition originale. Alors un accord politique dès demain, ça permettrait un vote en plénière d'ici l'été avec une entrée en vigueur du texte espérée début 2023.
Eh bien on attend la fumée blanche. Angélique Bouin avec nous depuis Bruxelles comme chaque jeudi. Merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, dimanche, ça n'a donc échappé à personne, la France vote.
Mais oui.
Mais oui, ah bon. C'est aussi le cas d'un autre pays de l'Union européenne dont on parle rarement, c'est la toute petite Slovénie. Et pour vous, les deux scrutins ont des points communs, une forme de référendum sur l'Europe dans les deux cas, avec un duel assez similaire, et c'est votre monde d'après.
Vous vous dites peut-être, oulala, la Slovénie, ça a un peu pointu cette affaire. Eh bien c'est vrai, c'est un petit pays, la Slovénie, 2 millions d'habitants, émanation de l'ex-Yougoslavie en 1990, au nord-est de l'Italie, et c'est vrai, on y prête généralement très peu d'attention. Mais à y regarder de plus près, les élections législatives de ce dimanche y sont fascinantes. Elles nous offrent un miroir inversé de ce qui se passe en France, un autre duel Macron-Le Pen, ou plutôt Le Pen-Macron. Parce qu'en Slovénie, l'homme qui est au pouvoir et veut y rester est un nationaliste populiste. Janez Janša, c'est son nom, est un personnage autoritaire et controversé. Depuis 2 ans, il n'a cessé de restreindre la liberté de la presse, de s'en prendre aux magistrats, de vouloir gouverner par décret, de critiquer les ingérences européennes, de vouloir refouler les migrants et de traiter ses adversaires de noms d'oiseaux. Selon la très sérieuse ONG Freedom House, c'est le pays en Europe où les droits ont le plus reculé l'an dernier. Janša est un admirateur de Donald Trump et du Hongrois Viktor Orban, et la télévision privée qui lui appartient a longtemps défendu Poutine en qualifiant d'imaginaire les valeurs européennes défendues par le président ukrainien Zelensky. Mais bon, comme Janša regarde le sens du vent, il a fait volte-face depuis le début de la guerre et il a apporté son soutien à l'Ukraine. Bref, tout ça rappelle quelqu'un de ce côté-ci des Alpes.
Et donc, qui est en face le Macron local?
C'est un nouveau venu, il s'appelle Robert Golob et vous allez voir, les points communs là aussi sont frappants. Golob a 55 ans, c'est un peu une météorite, il est quasiment sorti de nulle part. C'est un ancien patron d'une entreprise de trading en électricité. Il a fondé, un nouveau parti, baptisé Svoboda, Liberté, et en très peu de temps, il a coulé les partis classiques. Svoboda est parti de zéro en novembre dernier, et le voilà maintenant, à 3 jours du scrutin, au coude à coude avec le parti de Janša, 25% contre 25%. Comme la Slovénie est un régime parlementaire, tout ça se joue dimanche, donc lors de ces législatives. Golob se veut centriste, un peu plus centre-gauche que centre-droit, mais c'est léger. Il est libéral sur les questions de société, pro-européen, pro-business. Il se pose en défenseur des droits des minorités, il veut préserver la Constitution et il a teinté son programme d'écologie. Il séduit plutôt les villes, notamment la capitale Ljubljana. Bref, s'il a 10 ans de plus que Emmanuel Macron, les points communs sont quand même saisissants. La petite Slovénie, à 700 km de chez nous, c'est pas très loin, nous renvoie donc notre propre image à l'envers. D'une certaine façon, elle nous éclaire en nous montrant aussi à quoi pourrait ressembler une France gouvernée par un pouvoir nationaliste et populiste.
Et donc, dans les deux cas, Jean-Marc, l'élection de dimanche est une sorte de référendum sur l'Europe.
Exactement. Et même si les deux pays n'ont pas la même taille, pas le même poids, l'avenir de l'Union européenne se joue aussi dimanche en partie à Ljubljana. Dans les deux cas, les électeurs vont devoir trancher entre deux visions radicalement opposées de l'Europe. Marine Le Pen et Janez Janša prônent une alliance des nations où les souverainetés nationales prennent le pas sur la puissance collective. Emmanuel Macron et Robert Golob défendent l'exact opposé. Seule l'Europe peut nous permettre de continuer à peser dans les affaires du monde. Et on sait de quel côté penchent les dirigeants des principaux pays de l'Union. Il n'est qu'à lire la tribune pro-Macron publiée aujourd'hui dans Le Monde par l'Allemand Scholz, l'Espagnol Sanchez et le Portugais Costa. Le résultat en Slovénie est important aussi parce qu'il va décider du poids en Europe du Hongrois pro-Poutine Orban et de l'existence au sein de l'Union d'un petit club de blocage, un club aux valeurs nationalistes et illibérales, désireux de limiter le périmètre de l'Europe sur l'économie, l'immigration, la défense. Et en plus, on parle là de la Slovénie, donc de cette région des Balkans toujours menacée par les dérives extrémistes. Si le populiste Janša reste au pouvoir, la Hongrie sera moins isolée et Marine Le Pen, en cas de victoire en France, se sentirait elle aussi moins seule en Europe. À l'inverse, si Emmanuel Macron et Robert Golob l'emportent tous deux, l'Union européenne pourra respirer un bon coup. C'est pour ça que dimanche soir, à 20h, les principaux dirigeants européens surveilleront évidemment d'abord d'un regard inquiet les chiffres venant de Paris, mais ils garderont aussi un œil très attentif sur les résultats en Slovénie. Et tiens, Vladimir Poutine surveillera aussi, sans doute.
Allez, Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après, merci beaucoup. Le 18-20, que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, vraiment merci, très chaleureusement. Continue avec vos questions, votre participation, c'est le téléphone sonne juste avant. Il y a le journal d'Hélène Philly, merci beaucoup de passer la soirée avec nous.